Radio Kapi. Oh, Kapi.
Madame, monsieur, bonjour. Les condamnations continuent de tomber au lendemain de l'attaque du drone qui a fait 3 morts et des dégâts matériels au quartier résidentiel de Katindo à Goma. Tout dénonce des violences aveugles et appelle au respect du droit international humanitaire. Nous parlons de ce drame au Lualaba. 9 creuseurs artisanaux sont morts hier dans un éboulement. Cela s'est passé sur le site minier de Safi, dans la concession de Boss Mining à Kaktanda, territoire de Louboudi. Et ce bilan est encore provisoire. Notre invité, le sénateur Norbert Basengezi Katintima, cet ancien vice-président de la commission électorale, a déposé la semaine dernière au Sénat un projet de loi pour modifier la loi électorale. Il estime que ce texte contient certaines failles qui méritent d'être corrigées. Bienvenue à cette édition du journal. L'émotion et les condamnations se multiplient au lendemain de la frappe de drone qui a touché un quartier résidentiel de Goma, ville du Nord Kivu occupée depuis plus d'un an par l'FC-M23. Cette attaque a fait 3 morts, dont une employée des Nations Unies travaillant pour l'UNICEF. Plusieurs dirigeants et responsables internationaux dénoncent des violences aveugles. Ils appellent l'obligation de protéger les civils et les humanitaires et exigent aussi le respect du droit international humanitaire. Le condensé des réactions avec Martial Papimoukeba.
En tête des réactions, le président français Emmanuel Macron, la victime onisienne étant de nationalité française, il appelle au respect strict du droit international humanitaire et à la protection du personnel engagé pour sauver des vies. Les États-Unis, par la voix du Bureau des affaires africaines du département d'État, dénoncent une attaque qui aggrave encore le bilan humain dans l'est de la RDC. Washington juge inacceptable les frappes visant des zones civiles et appelle toutes les parties au conflit à garantir la sécurité des humanitaires. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, condamne pour sa part ce qu'il qualifie de violences aveugles. Il déplore la multiplication de ces attaques qu'il considère comme une violation du cessez-le-feu et exhorte les belligérants à privilégier la voie des négociations. À la Commission européenne, la commissaire chargée de la gestion des crises, Adja Labib, estime que prendre pour cible des civils constitue un crime et un acte abject. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Merci Martial. Par ailleurs, plus de 150 déplacés de la guerre dans l'est du pays installés à Lubumbashi ont organisé un sit-in hier mercredi devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ils dénoncent leurs conditions de vie précaires depuis leur arrivée dans la ville. Ils appellent les autorités provinciales ainsi que les organisations humanitaires à leur venir en aide. Paul Biamungu, représentant de ces déplacés, explique leur situation dans cet extrait sélectionné par Paula Munanga.
Nous sommes ici, nous les déplacés de la guerre de l'Est, uniquement pour annoncer notre problème que nous sommes en train de traverser ici à Lubumbashi, là où nous sommes. Nous sommes les déplacés et ça fait presque 2 ans que nous sommes là sans aucune assistance sociale. Nous voulons que le gouvernement provincial et même notre gouvernement national puisse nous venir en aide, puisque depuis que nous sommes là, nous passons la nuit toujours dehors sans rien manger et ça nous fait du mal. Nos enfants sont devenus maladifs. Chaque jour, nos enfants sont entre la vie et la mort à cause de la situation que nous sommes en train de traverser. Nos maisons, d'ailleurs, sont toutes détruites à cause de la pluie. J'avais fait même des écrits aux autorités, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Vraiment, qu'ils puissent nous venir en aide, qu'ils puissent nous donner quelque chose comme les moyens financiers. Comment nous pouvons loger les maisons? Comment nous pouvons s'en sortir pour manger? Comment nous pouvons avoir même des couvertures pour se couvrir? Tout ça, même les soins médicaux. Que le gouvernement puisse aussi nous venir en aide.
Parlons à présent de ce nouveau rapport de Human Rights Watch, publié hier mercredi, sur la vague de disparitions forcées à Kinshasa. L'ONG internationale affirme que depuis mars 2025, des forces de sécurité congolaises sont responsables de nombreuses disparitions forcées dans la capitale et ses environs. L'ONG dit avoir documenté 17 cas de personnes victimes de disparitions forcées ou portées disparues au cours de l'année passée. Elle dit avoir reçu des récits crédibles de plusieurs cas supplémentaires. Le rapport précise que bon nombre de ces personnes disparues ont été retrouvés souvent des mois plus tard en détention dans les locaux du Conseil national de cyberdéfense, CNC, qui les a arbitrairement arrêtés et détenus, et ce, en parallèle de la police nationale congolaise et de la garde républicaine. Alain Irunga a lu ce rapport. Voici son condensé.
Au cours de l'année passée, les forces de sécurité congolaises ont secrètement arrêté et détenu des personnes pour des motifs fallacieux au cœur de la capitale, a déclaré Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch. Dans la plupart des cas, il semblerait que les arrestations soient motivées par des considérations politiques ou concernent des personnes soupçonnées de soutenir le groupe armé qui s'est emparé de certaines régions de l'Est de la République démocratique du Congo. Entre juillet 2025 et mars 2025, Human Rights Watch a mené des entretiens avec plus de 34 personnes, dont 9 anciens détenus du CNC et 11 proches des détenus. Human Rights Watch n'a pas divulgué les noms des personnes interviewées afin de garantir leur sécurité. Les responsables du CNC ont rencontré Human Rights Watch le 20 novembre et le 5 décembre 2025 et l'un d'eux a déclaré que l'unité a pour rôle de coordonner les services essentiels et que ses agents ont le droit d'intervenir si nécessaire. Cependant, le responsable est resté vague sur les détentions, faisant allusion au pouvoir du gouvernement de restreindre la liberté des personnes pour des raisons de sécurité essentielles. En réponse à un courrier de Human Rights Watch, Jean-Claude Bukassa, directeur et coordinateur du CNC, a écrit le 17 février que le CNC ne dispose d'aucun pouvoir d'arrestation ni de détention des personnes.
Et puis ce drame, dans la province du Lualaba, 9 creuseurs artisanaux ont trouvé la mort hier mercredi dans un éboulement survenu sur le site minier de Safi. Il est situé dans la concession de l'entreprise Boss Mining dans la cité de Kakanda, territoire de Lubudi. Le bilan corps provisoire a été confirmé par le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, SAIMAP. Le point avec Paula Munanga.
Selon SAIMAP, l'accident s'est produit aux premières heures de ce mercredi. D'après des sources locales, plusieurs creuseurs artisanaux s'étaient introduits dans la carrière pour extraire du minerai. Des témoins rapportent qu'une masse de terre s'est détachée d'un remblai. En bas du remblai, plusieurs trous sont creusés par des exploitants artisanaux et ces derniers ont été ensevelis par la masse de terre. Après d'intenses recherches, 9 corps sans vie ont été sortis des décombres, rapportent des sources locales. Entre-temps, des recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuelles victimes. Les autorités locales annoncent qu'il pleut abondamment ces derniers jours dans la région et ces précipitations ont fragilisé les sols et favorisé le glissement des terres. SAIMAP souligne que pour des raisons sociales, les exploitants miniers artisanaux sont parfois autorisés à accéder à certaines parties de la mine pour extraire les minerais. Pour rappel, au mois de février dernier, un éboulement a tué 11 creuseurs artisanaux dans la carrière de Touluizembe à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi. Depuis la ville de Kolwezi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et cette bonne nouvelle concernant le pays, la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la transformation locale de ses ressources minières. Le gouvernement central a officiellement lancé hier mercredi la toute première raffinerie pilote d'or du pays à Kalemi dans la province du Tanganyika. Justine Moussa Oponde nous en dit plus.
Baptisée DRC Gold Refinery SA, cette installation industrielle est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise publique DRC Gold Trading et la société Lunga Mining. La raffinerie a une capacité de production estimée entre 500 et 600 kg d'or par mois. Elle couvrira toute la chaîne de valeur depuis l'achat de l'or brut jusqu'au raffinage et à la production des lingots. Selon le ministre des Mines Liwatum Kabamba, cette infrastructure marque une avancée majeure pour le secteur aurifère congolais. Elle permettra notamment d'assurer une meilleure traçabilité de l'or et d'offrir des prix plus équitable aux mineurs artisanaux. Pour la première fois, la RDC se dote de la capacité de raffiner ses propres minerais stratégiques, tout en garantissant des prix équitables et des conditions transparentes pour les mineurs artisanaux, a déclaré le ministre. Avec cette raffinerie pilote, la RDC ambitionne désormais d'exporter de l'or raffiné à une pureté de 99,9% dans le cadre des réformes engagées pour renforcer la transparence et la valorisation locale des ressources minières.
Lutte contre la criminalité faunique au Maniema, un des deux braconniers récemment arrêtés par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, en collaboration avec les services de sécurité, a été condamné à 7 ans de servitude pénale. Ce premier jugement favorable à l'ICCN a été rendu lundi dernier par le tribunal des grandes instances de Kindu, siégeant en matière répressive lors d'une audience foraine. Satisfait de cette décision, l'ICCN souhaite que de telles audiences soient organisées régulièrement afin de servir d'exemple à ceux qui s'aventurent illégalement dans le parc national de la Lomami. Florence Kizalunga.
Il s'agit de M. Kipuka Zakatindi Honora, arrêté le week-end dernier à une dizaine de kilomètres de Kindu par les services de sécurité en possession d'ivoire détenu illégalement. À la suite de son arrestation, l'ICCN a sollicité une audience foraine pour établir leurs responsabilités. Après les prononcés du verdict, l'institution s'est réjouie de cette condamnation. Maître Mikoka Isumbisho Kabanza Désiré, avocat conseil de l'ICCN Penel, a salué cette décision.
Vous savez que nous avons plusieurs dossiers pendant devant les cours des tribunaux et parquets, mais c'est pour la première fois que l'ICCN vient d'avoir un jugement de satisfaction où on a condamné quelqu'un avec une peine sévère, une peine exemplaire, 7 ans pour dissuader les autres qui veulent encore entrer dans le parc en fait de faire la chasse illégale des espèces totalement protégées.
Ce jugement intervient quelques jours seulement après que le magistrat et les personnels judiciaires se sont engagés à contribuer à la conservation de la nature par la répression des actes de braconnage. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Honneur à la femme en ce mois de mars. Nous faisons un focus aujourd'hui sur deux qui se distinguent par leur travail. D'abord, Madame Michou Mitongu, femme peintre, mariée et mère de 3 enfants. Elle exerce son métier depuis 2003 après ses études universitaires à l'Académie des Beaux-Arts de Lubumbashi. Estelle Delafine a échangé avec cette femme d'exception. Elle nous propose son portrait.
Michou Mitongu est une femme artiste peintre vivant en Bujima et au Kasaï oriental. Pour exercer son métier, Michou est 2 fois contrainte de monter sur une échelle pour rafraîchir le mur d'une maison ou d'un bâtiment. Elle dit être fière.
C'est un métier que je voulais vraiment que je puisse monter aussi aux échelles. Je voyais les papas en train de monter aux échelles. Je me disais, mais moi aussi, je suis capable de le faire.
Sur place en Bujima, Michou a déjà mis la peinture sur des bâtiments, des entreprises et dans quelques maisons résidentielles. Le professionnalisme de cet artiste peintre lui a permis d'obtenir certains marchés auprès des grandes entreprises.
J'ai beaucoup travaillé dans des brousses au village, Kabinda, à Ngandangika, à Luebo, avec RTL, avec aussi la CNSS, avec la DGRAD.
Michou Mitongu n'est pas limité. Son rêve est de se professionnaliser dans d'autres métiers, dont le carrelage.
Je me suis même allée à l'INPP faire des formations en bâtiment, en carrelage et en plomberie.
Michou Mitongu déteste de vivre la main tendue. Elle encourage les autres femmes à apprendre le métier pour être autonomes. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Une autre femme que nous allons découvrir dans ce journal, c'est Vanessa Kaniki, femme cordonnière dans le Nord Kivu. Son credo, sortir des sentiers battus pour devenir actrice de changement. Pour cette cordonnière établie à Goma, le développement de la République démocratique du Congo passe par l'audace féminine. À l'occasion de ce mois dédié à la promotion des droits de la femme, elle invite ces dernières à ne plus se contenter de reproduire l'existant, mais à oser l'innovation pour répondre aux défis du quotidien. Rosalie Zawadi l'a rencontrée en plein travail dans son atelier au quartier Imbi.
Entre les odeurs des cols et des cuirs, Vanessa Kaniki apprête ses outils de découpe pour préparer ses prochaines sandales. De bonne humeur, dans sa tenue noire de travail, elle ne cache pas sa fierté d'avoir choisi ce métier.
Quand j'arrive quelque part et que je dis voilà, je suis Vanessa Kaniki et je suis cordonnière professionnelle, vous-même quand vous écoutez, ça attire beaucoup plus d'attention et moi je dis bon voilà. C'est déjà ce que je gagne parce que je suis dans un domaine où si on doit chercher une subvention ou un financement et que nous sommes toutes des femmes, même si on est à 100 et qu'on doit présenter des projets, quand je vais présenter mon projet sera unique. Et pour moi, ça, c'est un grand avantage. Au début, je ne le voyais pas comme ça, mais à un moment, je me suis rendu compte que c'était très intéressant.
Si ces sandales voyageaient autrefois à travers tous les pays, la guerre a durement freiné l'élan de son entreprise. Aujourd'hui, face à la baisse des ventes, Vanessa Kaniki demande aux habitants de Goma de consommer les produits locaux pour soutenir la résilience des entrepreneurs dans la ville qui essayent de survivre malgré la crise. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les tensions diplomatiques entre l'Afrique du Sud et les États-Unis se sont accentuées après les déclarations du nouvel ambassadeur américain à Pretoria, Leo Brandt-Bozell. Le gouvernement sud-africain l'a convoqué pour s'expliquer sur des propos jugés non diplomatiques concernant les politiques raciales du pays. Nommé le mois dernier par l'administration du président Trump, l'ambassadeur avait critiqué certaines politiques sud-africaines destinées à corriger les inégalités héritées de l'apartheid. Lors d'une rencontre avec les chefs d'entreprise, il avait notamment remis en cause les mesures d'émancipation économique des Noirs, les comparant aux lois raciales de l'époque de l'apartheid.
L'invité.
Le sénateur Norbert Basengezi Katintima a déposé vendredi 6 mars au Sénat un projet de loi portant modification de la loi électorale. Élu du Sud Kivu et ancien vice-président de la commission électorale, il estime que le texte adopté en mars 2006 présente encore certaines failles qui méritent d'être corrigées. Parmi les points soulevés, il cite notamment la possibilité pour certains candidats de se présenter à plusieurs scrutins au cours d'un même cycle, soit dans une même circonscription, soit en plusieurs. Le sénateur Norbert Basengezi Katintima explique sa démarche dans cet entretien accordé à Grâce Amzati.
Sénateur Norbert Basengezi Katintima, bonjour. Vous venez de déposer une proposition de loi modifiant la loi électorale en vigueur depuis 2006. Pourquoi estimez-vous aujourd'hui nécessaire de la réviser encore une fois?
L'une des missions des sénateurs, c'est de contrôler le gouvernement et de légiférer. C'est le 9 mars 2006 que la loi électorale a été adoptée. À ce moment-là, j'étais vice-président de la commission électorale indépendante. Pour le moment, après les modifications subies en 2011, en 2017 et en 2022, il ressort qu'il y a encore des écueils à modifier.
Quelles sont, selon vous, ces principales limites du dispositif électoral actuel et les innovations que vous apportez?
Il s'agit notamment de voir certains candidats se présenter à plusieurs scrutins à la fois pendant le même cycle dans la même circonscription, dans plusieurs circonscriptions. Exemple, quelqu'un qui peut être candidat président de la République, quelqu'un qui peut être à la fois député national, provincial, mais aussi conseiller communal. L'innovation que nous apportons, il faut l'unicité des candidatures. C'est porter candidat à un seul scrutin. Le deuxième point d'innovation, c'est l'article 10, où l'on parle de l'inéligibilité pour les fonctionnaires. Si on est fonctionnaire, on doit avoir une mise en disponibilité. Si on est dans une entreprise publique, on doit également démissionner. Si on est au conseil économique et social, on doit démissionner. Si on est à la magistrature, on doit démissionner. Mais on ne dit rien en ce qui concerne les membres du gouvernement provincial ou les membres du gouvernement national. Pourtant, il faut, dans les élections, l'équité et l'égalité. Moi-même, j'ai été candidat en 2011, j'étais ministre de l'Agriculture. Même s'il y a un article qui prévoit à ce que l'on ne puisse pas utiliser le matériel de l'État, on peut laisser le véhicule, mais on reste ministre, on reste gouverneur et la population vous respecte comme tel par rapport à un enseignant du village, par rapport à un infirmier, par rapport à un membre de la société civile ou à un paysan qui veut compétir avec vous. Les quittés voudraient que tous puissent d'abord quitter leurs fonctions. Le troisième point concerne le président de la République. Lui ne peut pas quitter parce qu'il représente la nation et la Constitution le protège parce que le président de la République, selon la disposition constitutionnelle, doit quitter à la fin de son mandat. Et il est recommandé à la CENI de convoquer l'élection présidentielle à 90 jours d'avant la fin de son mandat. C'est pour cette raison qu'on ne doit pas comparer l'institution présidente de la République à l'institution gouvernement, à l'institution cours et tribunaux ou à d'autres institutions d'appui à la démocratie. Le quatrième point, c'est le point qui concerne les suppléants. Les suppléants, aujourd'hui, ce sont les cousins, la famille elle-même ou d'autres. Je sais que c'est un point sensible, mais dans ces pays, il y a eu un certain moment où les suppléants venaient directement de la même liste électorale. 77-82, les suppléants venaient de la liste du parti, parce que c'était un parti unique, et il était donc celui qui succède à celui qui était là et non un membre de famille ou quelqu'un d'autre. L'innovation que nous apportons ici, nous avons des regroupements, nous avons des partis politiques. Quand vous avez perdu votre mandat, vous êtes nommé, vous êtes décédé, vous avez démissionné, parce que ce sont là les conditions, ou vous êtes invalidé. C'est lui qui doit faire la suppléance à vous. C'est le deuxième qui vous a suivi directement sur votre liste du parti. Moi, je suis du regroupement AN. Si je ne suis pas donc député national ou sénateur à ce moment-là, c'est celui qui me suit directement sur cette liste-là qui pourrait directement me remplacer et non mon fils ou ma femme. Voilà l'essentiel des innovations que nous voulons apporter ici.
Que comptez-vous faire pour que cette proposition de loi obtienne un consensus au Parlement?
Nous croyons que les gens vont soutenir tous ces projets parce que ça fait débat. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons contacter la société civile. Nous l'avions déjà contacté. Nous allons contacter les partis politiques. Nous allons contacter les députés, les sénateurs pour appuyer ces lois parce que nous voulons une loi du peuple qui répond donc aux besoins des citoyens. Les bonnes lois font de bonnes élections.
Norbert Basengezi Katintima, merci.
Je vous remercie.
Norbert Basengezi Katintima, sénateur élu du Sud Kivu et ancien vice-président de la commission électorale. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Alain Ronk, mis en onde par André Omungu. Babel Pongomasimango vous l'a présenté. À toutes et à tous, merci de votre attention. Bon après-midi.